Et l'Éternel sauva Israël ce jour-là, et la bataille s'étendit au-delà de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël furent accablés ce jour-là. Or Saül avait adjuré le peuple disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain jusqu'au soir, et jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. » Et entre tout le peuple, nul ne goûta de pain. Et tout le peuple du pays vint dans une forêt, et il y avait du miel sur le dessus des champs. Et le peuple entra dans la forêt, et voici du miel qui coulait, mais nul ne porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Et Jonathan n'avait pas entendu lorsque son père avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout du bâton qu'il y avait à la main, et le trempa dans un rayon de miel, et ramena sa main à sa bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Et quelqu'un du peuple répondit et dit, « Ton père a fait expressément jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui mangera du pain aujourd'hui. » Et le peuple était fatigué. Et Jonathan dit, « Mon père a troublé le pays. Voyez donc comme mes yeux ont été éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Eût-ce été si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin de ses ennemis qu'il a trouvé. Maintenant, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Et ils frappèrent ce jour-là les Philistins, depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Et le peuple fut très fatigué. Et le peuple se jeta sur le butin, et ils prirent du menu et du gros bétail et des veaux, et les égorgèrent sur le sol. Et le peuple les mangeait avec le sang. Et on le rapporta à Saül en disant, « Voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Il dit, « Vous avez agi infidèlement. Roulez à présent vers moi une grande pierre. » Et Saül dit, « Dispersez-vous parmi le peuple et dites-leur, amenez-moi chacun son bœuf et chacun son mouton, et égorgez-les ici et mangez. Et ne pêchez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et cette nuit-là, tout le peuple amena chacun son bœuf à la main et ils les égorgèrent là. Et Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit là à l'Éternel. Et Saül dit, descendons de nuit après les Philistins et pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un homme de reste. Et ils dirent, fais tout ce qui est bon à tes yeux. Et le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Dieu. Et Saül interrogea Dieu, descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu en la main d'Israël? Et il ne lui répondit pas ce jour-là. Et Saül dit, « Approchez ici, vous tous les principaux du peuple, et sachez et voyez comment ce péché est arrivé aujourd'hui. Car l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant que si ce n'était pas par Jonathan mon fils, il mourra certainement. » Et personne de tout le peuple ne lui répondit. Et il dit à tout Israël, « Vous, soyez d'un côté, et moi et Jonathan mon fils, nous serons de l'autre côté. » Et le peuple dit à Saül, fais ce qui est bon à tes yeux. Et Saül dit à l'Éternel, le Dieu d'Israël, donne un sort parfait. Et Jonathan et Saül furent pris et le peuple échappa. Et Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut pris. Et Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Et Jonathan le lui déclara et dit, je n'ai fait que goûter un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Et voici, je meurs. Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi y ajoute, si tu ne meurs certainement, Jonathan. » Et le peuple dit à Saül, « Jonathan, qui a opéré cette grande délivrance en Israël, mourra-t-il ? Qu'ainsi n'advienne. L'Éternel est vivant s'il tombe à terre un des cheveux de sa tête, car il a opéré avec Dieu aujourd'hui. » Et le peuple délivra Jonathan, et il ne mourut pas. Et Saül remonta de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. Jusque-là.
Mais peut-être pas une histoire très simple à prendre en cours de route. Donc simplement en deux minutes, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, peut-être simplement dire en deux mots où est-ce qu'on en est dans cette histoire. C'est donc une scène au début de la royauté en Israël. Saül est roi sur Israël dans une période de grands troubles dans lequel les Philistins sont aussi dans le pays et le peuple d'Israël est plutôt dans une position de faiblesse. Et on est dans un contexte de domination des Philistins qui habitent un peu au milieu du pays et qui on voit cette domination dans le fait que le peuple d'Israël n'a pas d'armes. Et même pour aiguiser ses armes, il fallait aller vers les Philistins pour pouvoir aiguiser ses outils pour pouvoir cultiver le sol. Il n'y avait que Saül et Jonathan qui avaient une arme. Et donc dans le chapitre 13, on a déjà vu Jonathan prendre position pour Dieu en allant détruire un poste des Philistins et remporter une première victoire. Et donc cette victoire, cette colonne qui avait été abattue, a entraîné un peu la colère des Philistins qui sont revenus dans le pays avec une grande armée cette fois-ci pour donner une bonne leçon aux fils d'Israël. Et le chapitre 14 montre Saül avec une petite troupe d'hommes qui ne fait rien, qui est sous un grenadier, qui attend passif. Il a son épée, il ne s'en sert pas, il ne sait pas bien quoi faire. Et il y a son fils, Jonathan, qui a un comportement tout à fait différent, qui est un homme de foi magnifique, et qui, sans en parler à son père, avec lequel on sent qu'il y a bien peu, on peut dire presque aucune communion avec son père, Jonathan, qui a confiance en Dieu, va amener avec lui son jeune homme, celui qui porte ses armes, et par un exploit guerrier assez extraordinaire, ils vont se présenter devant une position fortifiée des Philistins, et demander un signe à Dieu, et Dieu leur donne ce signe, les Philistins les font monter vers eux, et donc dans une position de faiblesse complète, ils montent avec leurs mains et leurs pieds pour escalader une position fortifiée où les Philistins les attendent en haut en se moquant d'eux, en pensant que c'est peut-être des déserteurs qui viennent vers eux. Et voilà qu'en arrivant en haut, ils attaquent cette troupe de Philistins qui sont là, et ils remportent humainement contre absolument toute attente, on peut dire, Dieu permet qu'ils remportent une victoire extraordinaire. Il tue cette vingtaine d'hommes qui est là dans ce poste fortifié, et Dieu intervient à ce moment-là et produit à ce moment-là une confusion terrible dans tout le camp philistin, et les Philistins se mettent à s'entretuer les uns les autres, sans doute un tremblement de terre permis par Dieu à ce moment-là, et cette situation qui était désespérée pour les fils d'Israël, dans lequel il n'y avait aucun espoir humainement, change tout à fait. Et à ce moment-là, les fils d'Israël, Saül entend ce qui se passe, le peuple s'agite en se rendant compte qu'il se passe quelque chose, et puis ils partent à la poursuite des Philistins et remportent une grande victoire, non absolument pas par la force qu'ils avaient eux-mêmes, mais parce que Dieu avait produit dans le camp des Philistins. Et on a vu dans le dernier paragraphe avant celui qu'on a lu, Saül qui ne se bat pas, qui est toujours c'est l'image de cet homme religieux en toute chose, qui fait venir l'arche, qui souhaite interroger l'Éternel, puis finalement qui s'arrête en cours de route, c'est qui ne va pas jusqu'au bout et qui ne fait rien, qui constate simplement ce qu'il se passe. Et donc il y a une grande victoire qui est remportée. Le verset précis, juste avant ce qu'on a lu, tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans la montagne entendirent que les Philistins fuyaient et s'attachèrent aussi à la poursuite dans la bataille. Et donc on reprend ce récit. On peut dire à ce moment-là, la victoire est remportée, les fils d'Israël sont à la poursuite des Philistins, et c'est là qu'on va entendre ce serment que Saül a prononcé.
Juste un petite pensée. En parlant avec un frère hier, on a remarqué, comme vient d'être dit dans le résumé, Saül n'a rien fait de son arme. Jonathan avait une arme, mais c'est son jeune homme qui la porte et qui tue ce qui tombe devant Jonathan. Saül aurait pu donner son arme à quelqu'un de plus vaillant que lui, peut-être. Mais ça nous montre qu'il y a un enseignement pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, j'ai l'épée dans la main? Est-ce que quelqu'un pourrait dire le contraire? Je n'entends rien. Est-ce que chacun a l'épée dans ses mains? Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais avec cette épée? est-ce que tu la mets à disposition des autres, comme l'a fait Jonathan? Et là, alors, il y a un message pour les parents, déjà pour enseigner à nos enfants à porter cette arme dès qu'ils sont tout jeunes, mais aussi pour nous qui devons aller à la bataille contre Satan pour lui dérober des âmes. Pas nous, on l'a dit hier et répété plusieurs fois, c'est pas nous qu'on pourrait gagner quelque bataille que ce soit. Mais on a l'épée dans nos mains. N'ayons pas peur de la déposer dans les mains de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Cette épée-là, elle a la puissance en elle de convaincre qui que ce soit. Et même en faisant un cadeau de la Bible à quelqu'un qui ne connaît rien d'autre que lire, la Bible peut travailler dans son cœur. Et sans que peut-être j'ai besoin de parler. Mais la question, c'est que notre responsabilité, c'est transmettons cette parole de Dieu au plus grand nombre de personnes. Dieu fera le reste.
Hier, on a terminé l'étude en parlant de cette frayeur de Dieu qui était là dans le camp des Philistins suite à l'intervention de Jonathan. Dans ce chapitre, on a une autre frayeur, une autre peur qui est, hélas, introduite par Saül lui-même. Il avait, comme les pharisiens le feront plus tard, mis des fardeaux sur les âmes qu'il ne pouvait pas porter. Maudit l'homme. Nous savons que le régime de la loi est un régime de malédiction. Et cette peur, nous la rencontrons au verset 26. Le peuple avait peur du serment. Est-ce que le christianisme que vous le vivez dans la crainte, comme le peuple avec cette épée de Damoclès, comme on dit aussi, si je désobéis, ça va me tomber dessus. Est-ce que c'est ça notre christianisme? C'est ce qu'instaure Saül. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Vous savez comment il avait rassemblé ses troupes autrefois, Saül. On trouve ça dans le chapitre 11 d'1 Samuel. Quand il monte pour délivrer les hommes de Jabès de Galaad, il prend ses bœufs, il les coupe en morceaux, il les envoie dans tous les quartiers d'Israël en disant « Celui qui ne sortira pas après moi, voilà ce qu'on va faire à ses bœufs. » C'est le même régime. C'est le régime de terreur. Est-ce que notre christianisme est comme cela? Conduit par la peur, est-ce que nous sommes poussés? Ou bien est-ce que nous sommes attirés par l'amour de notre Seigneur Jésus? Mais il y a un contraste entre Jonathan et Saül. Mais il y a aussi un contraste entre Saül, qui racole ses troupes par la menace. Comment est-ce que les gens sont venus vers David dans la caverne d'Adullam? Il les a menacés, il les a poussés dans les reins pour qu'ils viennent. Tout homme qui était dans la détresse, eh bien, sont venus et l'ont reconnu directement comme leur chef. C'est pas des gens qui sont poussés, comme fait Saül, par la crainte. C'est des gens qui sont attirés par son amour. Ces gens-là, ils savaient bien que David n'allait pas remplir leur poche, mais qu'il allait remplir leur cœur.
quel est mon christianisme? Est-ce que c'est un christianisme de crainte, de peur de désobéir, ou bien est-ce que je suis attiré par l'amour du Seigneur et que c'est cet amour-là qui m'empêchera d'aller vers le péché et le mal? Est-ce que c'est ça la motivation? Et là, le peuple a peur. Si on me laisse encore une minute, on verra que Saül a instauré cela dès le début. Mais il a continué. Quand Samuel est invité à aller chez Isaïe, il dit mais si Saül l'apprend, il va me tuer. Et quand les gens de Bethléem sont arrivés, ils ont dit mais est-ce pour la paix que tu viens? Voilà ce qu'avait instauré, ce qu'instaure un régime de loi, une religion de crainte, une religion de contrainte, contrairement à la religion de l'amour. D'ailleurs, Jonathan n'avait pas entendu. Son père a donné le serment, il n'avait pas entendu. Il n'a pas d'oreille pour ce genre de discours. Et que nous ayons en effet un cœur ouvert et des oreilles ouvertes pour l'amour du Seigneur, pour cet évangile positif, et non pas, selon je crois que on l'a cité hier, ces caricatures de christianisme dans Colossiens 2, verset 20, « Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas, où la chair trouve son compte, mais où le Seigneur, il n'y a rien pour le Seigneur. »
Saül, c'est l'homme religieux. A dit hier, Jonathan, c'est l'homme de foi. Et dans cette scène, chapitre 14, on voit cela, n'est-ce pas? D'un côté, Saül qui va établir des ordonnances. Il les a trouvées dans son cœur, hein, celle-là. Benjamin vient de citer Colossiens, n'est-ce pas? C'est frappant de lire ça. Établissez-vous des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, selon les enseignements des hommes, qui ont même une apparence de sagesse, en dévotion, en humilité, mais en fait, c'est pas de Dieu tout ça. Faisons attention à ne pas établir des règles qui s'imposent comme des ordonnances, des enseignements des hommes. On a à recevoir l'enseignement de Dieu, par contre, nous nous soumettons à ce que Dieu nous dit. Mais pas des enseignements des hommes, des règles imposées. Et là, Saül va imposer. Déjà, maudit soit l'homme, il mangera du pain, il a trouvé ça dans son cœur, sûrement. Puis, aussi, il ajoute, jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. C'est pas selon Dieu, ça. Se venger de ses ennemis, c'est la chair dans toute... nos positions à Dieu, n'est-ce pas? Du moment que Saül se mêle des événements, il empêche le bien de se produire. En fait, c'est mérité, ordonnance charnelle, voilà ce que propose Saül. Les certitudes. Et en fait, rien ne lui manquait à Saül. Pourtant, tout lui manque dans le fond, parce qu'il lui manque la foi. Il lui manque la communion avec Dieu, ce qu'avait Jonathan. Mais Jonathan aimait le peuple d'Israël. Et il s'attache à lui pour le délivrer. Et d'ailleurs, le peuple ne s'y trompera pas. Au verset 45, on le verra, c'est dit que le peuple dit qu'il a opéré une grande délivrance en Israël. Il reconnaît, n'est-ce pas, que Jonathan a été dans la main de Dieu pour cela. Ils disent même qu'il a opéré avec Dieu aujourd'hui. Mais Jonathan n'avait pas entendu le serment et il va, lui, prendre avec le bout de son bâton un rayon de miel qui va lui éclairer les yeux, qui va lui donner la force aussi pour continuer.
Et il peut dire, si le peuple avait pu manger du butin, la défaite des Philistins aurait été plus grande, n'est-ce pas? Et on voit que Saül n'avait pas remarqué la faiblesse, la fatigue du peuple. À trois reprises, il est dit cela, au verset 24, les hommes d'Israël furent accablés. Ils étaient accablés de fatigue. On le retrouve au verset 28, à la fin, le peuple était fatigué. Et puis, à la fin du verset 31, le peuple fut très fatigué. Jonathan, il pensait au peuple. Il avait à cœur le bien du peuple. Saül, il n'avait aucun intérêt pour le bien du peuple. Que nous ayons vraiment intérêt à rechercher le bien de nos frères et sœurs, rechercher le bien de l'Assemblée. Est-ce que c'est ça qui nous motive, qui nous guide, n'est-ce pas? Que nous puissions œuvrer avec Dieu, avec le Seigneur, et non pas comme Saül, en fait, qui fait tout le contraire. Jonathan trouve ses ressources en Dieu et avait foi en Dieu. On peut citer je crois que c'est dans le psaume 110, il boira de l'eau du torrent dans le chemin, il lèvera haut la tête, Jonathan l'a fait avec ce miel qu'il a pris. Que nous puissions aussi aimer le peuple de Dieu comme Jonathan l'a fait, comme Jonathan a manifesté cette foi, et que la religion de Saül ne nous gagne pas tout ce qui est extérieur, tout ce qui est ordonnance des hommes. Est-ce que je suis un frère âgé qui fait peur aux plus jeunes? Est-ce que ils n'osent peut-être pas se lancer à prier en assemblée ou à citer un cantique? Parce qu'ils savent que si je dis un mot de travers ou si je fais quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste, tel frère ou tel frère va me dire quelque chose. Est-ce que je suis un frère qui est connu pour cela? Ou est-ce que je suis un frère qu'on vient d'entendre, qui est connu pour quelqu'un qui aime les frères et sœurs et qui aime les plus jeunes et qui comprend que les plus jeunes n'ont sans doute pas les mêmes connaissances? Il y a peut-être parfois, à cause de notre attitude, des frères qui n'osent pas parler dans l'assemblée. Et c'est toute l'assemblée qui perd. Et c'est le Seigneur qui est frustré aussi. Soyons de ceux qui encouragent les jeunes. Oui, parfois, on entend un frère qui a cité un cantique qui n'était peut-être pas dans pour un culte ou un frère qui, dans une prière, a dit quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Et puis, à la fin du culte, paf, il y a un ou deux frères qui vont vers lui tout de suite pour lui dire. Ça fait peur. Non, qu'on puisse agir avec douceur, avec grâce, avec amour. Et ainsi, les plus jeunes n'auront pas peur de s'exprimer. Parce que, nous le savons, dans l'adoration, ce n'est pas un don. Ce n'est pas donné aux plus anciens. Mais même les plus jeunes, eh bien, soyons de ceux qui encouragent les jeunes à faire des progrès. Et ce sera une bénédiction pour toute l'Assemblée. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois corriger les choses, mais il y a un moment de le faire, et il y a aussi une manière de le faire. Mais soyons de ceux qui encouragent, et pas de ces chrétiens qui font peur aux autres.
Se placer sous la loi ne donne aucune force. Et le peuple en est une illustration. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas de force. Qu'est-ce qui nous donne la force? Mais de goûter l'amour du Seigneur, de vivre avec lui, dans sa communion. Mais là, le peuple est fatigué. Et arrive ce problème C'est-à-dire qu'ils désobéissent, et c'était un commandement de la loi de ne pas manger de sang. On trouve ça dans Lévitique 17 en particulier, vous ne mangerez pas de sang. Quelle est l'attitude de Saül? Ça aurait dû le renvoyer à sa propre interdiction, à son serment. C'est ma faute, finalement, si le peuple se jette comme ça sur le butin. Mais voilà un homme qui ne se remet pas en cause. Voilà un homme qui va trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde, dans les entreprises? On a un problème, et bien on trouve une solution. On fait une réunion pour trouver une solution. C'est la manière de fonctionner du monde. Et que c'est triste, dans les rassemblements et même dans les réunions de frères, lorsqu'on a un problème, qu'on cherche une solution comme fait une réunion de travail dans le monde. Il y a quelqu'un qui est assez différent de lui, qu'on trouve dans les Nombres au chapitre 9, il s'agit de Moïse. Là aussi, il y a un problème, il y a des gens qui sont impurs. On peut dire que ce n'est pas très loin de ces gens qui sont en train de manger cette viande avec du sang. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ces hommes, verset 7, lui dirent: nous sommes impurs à cause d'un corps mort d'un homme. Pourquoi serions-nous exclus de présenter l'offrande de l'Éternel de temps fixé au milieu des fils d'Israël? Et maintenant, regardez l'attitude de Moïse. Et Moïse leur dit: tenez-vous là, et j'entendrai ce que l'Éternel commandera à votre égard. Au lieu de chercher une solution, eh bien, la situation dont il était responsable aurait dû l'amener devant l'Éternel. Bien-aimé, l'esprit du monde, c'est aussi cela, dans les rassemblements. On a un problème, on réfléchit, on négocie, on essaye de trouver des solutions. Je dirais, elle n'était pas mauvaise la solution de Saül, oui, mais il a passé à côté de l'essentiel qui était d'aller consulter l'Éternel et d'abord de juger, parce que ça, c'était aussi envoyé pour qu'il juge la manière dont il avait mis cette espèce de couvercle sur ce peuple qui était fatigué. La loi ne donnant pas de force, il aurait dû avoir affaire à l'Éternel. On ne voit rien de tout ça. Jonathan, on l'a vu largement hier, était dans la dépendance de l'Éternel pour ses exercices. Saül, à aucun moment. Le Seigneur nous donne, dans tout ce qu'il permet, d'abord cette attitude toujours d'humiliation et d'en référer non pas à des solutions que nous pouvons imaginer, mais d'abord à lui-même.
J'aimerais juste lire un verset, c'est dans Matthieu au chapitre 23, au verset 4. Et il est fait allusion aux pharisiens, ces hommes de la loi. Il lit des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Il lit des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes. C'est ce qu'a fait Saül ici. Cette règle qui ne venait pas de Dieu, qui venait du cœur de Saül, que Saül ajoute à la parole, on peut dire, voilà. Qu'est-ce qu'elle entraîne? On l'a déjà dit, elle entraîne la faiblesse du peuple, première chose. Elle entraîne, on voit, à la fin de la journée, une forme de frustration du peuple qui l'amène à manger dans la précipitation. Ils avaient extrêmement faim. Je ne sais pas si les enfants ont compris la scène. En fait, Dieu avait commandé qu'il fallait verser le sang d'un animal avant de pouvoir le manger. Et là, ils ont fait ça comme des... on ne sait pas trop, mais d'une manière qui n'était pas ce
comme Dieu l'avait demandé, et ça les a amenés à manger la viande avec le sang. Et le sang, il y avait cet interdit, on l'a dit, effectivement, le sang, c'est cette image qui nous parle de la vie qui appartient à Dieu. Il y avait dit, voilà, quand on tue un animal, que je le donne pour nourriture, mais je demande que le sang soit versé à part, pour rappeler que la vie appartient à Dieu. Et le peuple ne respecte pas ça. Mais il me semble c'est important de se dire, de comprendre que les restrictions, les règles qui sont ajoutées à la parole, qui ne viennent pas de Dieu, affaiblissent, entraînent des frustrations et amènent à pécher au final. Dieu donne des règles. Dieu donne des commandements dans sa parole. Et il est important, on l'a un peu dit hier déjà, de le connaître. Et je crois que les commandements que Dieu donne, il donne tout ce qui est nécessaire pour les suivre, pour que ce ne soit pas un fardeau pesant. Je pense à tous les jeunes qui sont là. Quand la parole Dieu dit, eh bien, la sexualité est quelque chose qui se vit dans le mariage, et rester pur tant qu'on n'est pas marié devant le Seigneur, eh bien, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Oui, on peut dire que c'est une forme de commandement. La parole est toujours très claire sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose pour lequel le Seigneur veut nous aider. Il veut nous aider dans ces choses-là. Il veut nous donner les forces. Ce n'est pas quelque chose qui va être une frustration, qui va nous emmener. Le Seigneur veut nous aider dans ces choses-là, qui sont des choses bonnes, qui sont des choses qui sont selon lui, qui sont des choses qu'il honore, qui sont des choses qu'il glorifie, et dans lesquelles il va nous donner son secours. Par contre, aller rajouter des règles alimentaires, religieuses, et par exemple cet exemple de ne pas se marier, on l'a cité dans le Nouveau Testament, parce qu'on sait que c'est quelque chose dans la chrétienté, malheureusement, qui s'est beaucoup répandu, eh bien, de défendre de se marier. C'est quelque chose qui n'est pas dans la parole. Non seulement c'est quelque chose qui n'est pas dans la parole, mais la parole met en garde contre le fait de mettre cette règle. Et pourtant, c'est une règle qui a été mise, et dans laquelle on a dit, eh bien, voilà, pour certaines catégories de personnes qui vont avoir un rôle religieux, eh bien, interdiction de se marier. Et ça a amené des drames, ça a amené exactement un peu ce qui s'est passé là, de la faiblesse, des frustrations et du péché. Voilà ce qui a été le résultat de règles qui ne sont pas selon Dieu et qui ont été imposées. Et voilà, imposer des règles alimentaires, mais peut-être pour des choses qui nous concernent un peu plus nous, des règles concernant des questions d'habillement, il y a tant de choses comme ça, de petites règles qu'on peut vouloir imposer. S'imposer des règles à soi, encore c'est une chose, amen. Je ne crois pas que ce soit une chose très, très, très heureuse de s'imposer à soi-même des règles qui ne sont pas des choses qui viennent du Seigneur. Mais alors, il y a pire, c'est ce que fait Saül, c'est en plus, non seulement de se les imposer à soi, mais c'est de les imposer aux autres. Être légaliste pour soi, c'est triste. Mais alors, être légaliste pour les autres, c'est ça qui est le pire. Imposer aux autres des règles qui ne sont pas selon Dieu. Alors, je crois que ça a été dit déjà plusieurs fois, je voulais vraiment insister, parce que je crois que c'est un enseignement clé, fondamental de ce passage. N'imposons jamais à nos frères et sœurs des commandements, des choses qui seraient liées à nos habitudes, qui seraient liées peut-être à des convictions, des choses personnelles qu'on a pour soi, on a à faire au Seigneur, déjà c'est une chose, mais encore moins les imposer à nos frères et sœurs. Quelles conséquences ça peut avoir, parce qu'on voit que ça n'a pas de force, ça amène de la frustration, de l'incompréhension, ça amène des choses qui sont mal vécues et qui au final ne sont pas à la gloire de Dieu et entraînent des problèmes, entraînent des difficultés. Alors tenons ferme, les commandements qui sont du Seigneur, qui sont clairement dans la parole, et encourageons-nous et prions au Seigneur qui va nous aider à tenir ferme ces choses-là, et n'imposons rien qui ne vienne pas de la parole de Dieu.
Simplement un mot pour dire que ce qui peut-être aussi un peu questionner notre vie collective, c'est que quand Saül prend ce serment, on l'a dit de façon très autoritaire, très, très arbitraire. Ce n'est pas un mauvais principe, le jeûne, en soi, mais là, ce n'était pas le moment. Puis, il l'impose à tous, comme on l'a dit, en menaçant de mort ceux qui ne respecteraient pas. Puis, un jeûne, ça a dû s'accompagner de prières. Puis, ce n'était pas le moment parce que, si on se place dans une perspective historique, il y avait un combat à mener. On voit après, ils sont faibles pour aller au combat. C'était manifestement une décision qui n'était pas appropriée. Et ce qui est triste de voir, c'est que le peuple, on l'a dit, le peuple qu'il a, il a de la crainte, et on le voit bien, il a peur de ce serment, et il s'y conforme. Et Jonathan, lui, il n'a pas transgressé délibérément un interdit qu'il aurait fixé. Son père l'a dit, il n'avait pas entendu. Pas qu'il a voulu provoquer quoi que ce soit. Le Seigneur a mis, l'Éternel, on pourrait dire, a mis sur son chemin ce miel, et on a goûté en, en toute bonne conscience. Et quand le peuple, on le voit, c'est assez frappant, il lui dit, mais tu sais, c'est pas possible, ton père a expressément, avec serment, interdit de le faire. Et ce qui est assez remarquable, c'est que Jonathan, on ne voit pas s'excuser, ni dire, ah bah, j'aurais peut-être pas dû. Non, d'ailleurs, il a même une parole assez sévère. Il dit, mon père a troublé le pays. Mais il va avoir aussi, à la fois, ce discernement de la foi, de discerner, comme on l'avait dit hier, que Saül est un mauvais berger. Discernement de la foi, et puis aussi un certain courage, quand même, pour avoir cette parole. Alors, ça peut peut-être questionner notre vie collective, parce que, voilà, parfois, si on peut, il peut y avoir une décision, une prise de position, peut-être sous couvert d'un bon principe, mais qui est manifestement inapprié, qui est pris sur un plan légal, comme on l'a dit, qui s'impose à tous de façon très, très arbitraire, ben, quelle réaction aussi? Est-ce qu'on dit, bon, ben, on va l'accepter parce qu'on peut pas, peut-être pas trop faire autrement, peut-être même dire à quelqu'un qui ne ferait pas attention, tu sais, il faut, ouais, c'est peut-être pas vraiment une, bon, voilà, on peut pas aller plus loin, mais on peut, voilà, se questionner. Et puis, si on va à la fin du récit, on voit que, on pourrait dire peut-être sous l'heureuse influence de Jonathan, quand, en continuant ainsi dans ce parcours très très religieux de ce chapitre 14 de la part de Saül, quand il va jusqu'à dire, qu'à décréter la mort sur son propre fils, toujours sur des motifs religieux, parce qu'on l'a dit, David, Saül, il dit, l'Éternel est vivant, c'est une belle parole, il dit même, l'Éternel qui a sauvé Israël est vivant, très belle parole, pourquoi? Pour décréter, de façon extrêmement injuste, la mort sur son fils, sur Jonathan, qu'elle est délivrée pourtant. Et là, on voit que le peuple, cette fois, il n'accepte pas. Et Saül va être obligé, finalement, de renoncer à ce qu'il avait projeté. Donc, voilà, c'est peut-être aussi, on avait parlé hier un peu de notre vie collective, des enseignements qui peuvent aussi peut-être nous parler, nous encourager justement à chercher vraiment ce qui vient de la part de Dieu, ce qui est dans sa parole, et à le faire avec aussi cette humilité et cette bienveillance, cet amour dont nous sommes appelés, que nous sommes appelés à manifester dans nos relations les uns avec les autres en tant que croyants.
Saül est un roi de la chair. Et on voit les actions de la chair, comment il a agi. Il a fait ce serment, c'est pour « moi, je veux me venger, mon ennemi ». Alors, il a mis cette affaire qui était l'affaire du peuple, qui était l'affaire de Dieu, il en a fait une affaire personnelle. Il voulait se mettre, lui, en avant, il a dit « voilà, si vous n'obéissez pas à ma parole, vous mourrez ». Alors, si nous faisons de l'affaire de Dieu une affaire personnelle, on fait souffrir le peuple. Le peuple avait besoin de la force pour cette lutte. Le peuple avait besoin du pain, de se nourrir. Et au lieu de lui, comme roi, qui aurait dû donner la nourriture à ce peuple, il empêchait le peuple à se nourrir. Des dons de Dieu. Dieu, il a donné ce miel. Et les empêchait alors en goûter de ce don de Dieu. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pécher le peuple, parce que ils avaient faim. Et alors, avec cette faim, ils se nourrissaient de quelque chose qui n'était pas permis. Il y avait quelque chose que Dieu n'avait pas donné à manger, qui était pour lui. Maintenant, alors, c'est comme ça que la mort est maintenant au-dessus de ce peuple, représenté par Jonathan qui l'avait fait le bien. Mais, alors si nous mettons maintenant ça dans notre vie pratique, est-ce que nous faisons une chose personnelle pour nous, les choses de Dieu dans l'assemblée, est-ce que c'est nous qui régnons sur le troupeau au lieu d'être donné de la nourriture au troupeau? Est-ce que le troupeau, il souffre de la famine parce que nous, on ne leur a pas donné quelque chose, parce que nous, on a tout pris pour nous? Et ainsi, on fait pécher le peuple, parce qu'ils vont se nourrir des sources qui ne sont pas permises.
Ce qui frappe dans ce récit, c'est que Jonathan ne se vante pas. On ne voit pas Jonathan qui dit « grâce à moi, on a eu la victoire ». Nous aussi, on a aussi peut-être un danger quand on a une victoire de penser qu'on est peut-être pour quelque chose, alors que c'est le Seigneur qui va donner la délivrance. Le peuple dit au verset 45, Jonathan a opéré cette grande délivrance. C'est pas Jonathan qui dit j'ai opéré cette grande délivrance, c'est le peuple. Et le verdict de Dieu, c'est donné au verset 23. L'Éternel sauva Israël. Eh bien, nous aussi, quand nous avons eu une délivrance, une grande victoire, eh bien, il faut en attribuer la gloire au Seigneur, ne pas s'attribuer la gloire à nous-mêmes. On est peut-être en danger de penser qu'on a une certaine importance. Dans Luc 17, il y a un verset qu'on a du mal à réaliser, j'ai du mal à réaliser. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, Luc 17, verset 10, « Ainsi vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites, nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. » Est-ce qu'on pense qu'on est inutile, qu'on est simplement entre les mains du Seigneur, ou est-ce qu'on pense qu'on a une certaine importance dans les combats que le Seigneur nous confie?
On voit tout de suite après, l'Esprit de Dieu le souligne bien, il bâtit un autel, et il dit, alors qu'il est roi depuis un certain temps, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça a été une totale indépendance de l'Éternel. C'est allé déjà, il y a beaucoup de choses déjà. Et il l'a fait dans l'indépendance. Combien différente est l'attitude d'un Abraham dans le chapitre 12. Il a sa tente et son autel. C'est sa vie nomade et sa relation avec l'Éternel qui sont soulignés. Une tente n'est pas d'ici, il est de passage, et en même temps son autel, il le met en relation avec Dieu. Alors, tristement, c'est son premier autel, et ce n'est même pas lui qui dit « approchons-nous ici de Dieu », c'est le sacrificateur. Il voudrait simplement avoir la pensée de Dieu un petit peu comme une recette, sans un exercice profond. Et nous sommes aussi en danger de ça, vouloir un petit peu des recettes. J'ouvre la parole et puis comme ça je saurai ce que je dois faire. Des choses comme ça. Nous ne sommes pas appelés à être conduits comme ça. Nous sommes appelés à vivre dans une relation avec notre Seigneur. Dans un exercice. Là on ne voit pas d'exercice. On voit quand même une chose qui est assez particulière. C'est que Dieu a entendu le serment qu'il a prononcé. Et on peut dire d'une certaine manière que Dieu l'a ratifié. Et nous avons déjà cela aussi, dans une situation qui n'est pas beaucoup plus belle, je crois que c'est Josué 9, dans l'histoire des Gabaonites. L'histoire des Gabaonites, ce sont des gens qui sont venus, par la peur aussi, ils se sont dit on va on va faire copain-copain avec ce peuple qui est en train de décimer tout le monde dans la région. Et il nous est dit dans le chapitre 9 de Josué, on n'interrogea pas la bouche de l'Éternel. On s'est allié avec ces gens-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si mauvaise qu'a été cette décision, et si indépendante qu'elle ait été comme celle de Saül, Dieu l'a pris en compte. Puisque, plus tard, dans l'histoire de David, sauf erreur, eh bien, Dieu a dit, Saül a entamé les Gabaonites alors que vous aviez un contrat de non-agression avec ces gens-là. Donc, vous êtes engagé, et j'ai ratifié cela, dans un contrat de non-agression, et Saül les a agressés. C'est dit du temps de David. Il faudrait chercher le passage, mais je ne vais pas faire trop long. Il nous montre aussi notre responsabilité, même collective, quand nous nous engageons sur un chemin. On dit, on a dit ça comme ça, non. Quand une décision est prise, quelquefois mauvaise, eh bien, malgré tout, Dieu la prend en compte. Et c'est extrêmement solennel, ça doit nous rendre extrêmement dépendants et prudents lorsque nous prenons une décision devant le Seigneur. Que nous puissions vraiment la prendre de sa part et dans sa dépendance. Ce que Saül n'a pas fait, mais Dieu l'a quand même pris en compte. C'est très solennel.
En fait, Saül a troublé le peuple. Et Jonathan, il voit clair, il dit au verset 29, « Mon père a troublé le pays. » Le trouble est l'entrave à la victoire, en fait. Et en fait, le péché du peuple, là, quand il mange le sang, c'est le résultat de mauvais serments de Saül. C'est lui le responsable, c'est lui qui a troublé Israël avec cette ordonnance qui venait de sa chair, qui venait de lui-même. Il bâtit un autel, Benjamin vient de le dire, et il nous est dit à la fin du verset 37, Dieu ne lui répondit pas. Il pensait que Dieu allait lui répondre, Dieu ne lui répond pas. Dieu ne répond pas à ce qui vient de la chair, n'est-ce pas? Non. Et il continue, malgré tout, pour voir qui est le responsable, qui est le coupable. Et au lieu de se remettre en question, lui, de dire, c'est peut-être moi qui n'ai pas été, il veut accuser Jonathan jusqu'au bout. On voit, si c'était par Jonathan, mon fils, il mourra certainement, verset 39. Il était prêt à ce que son fils meure. Quelle chose incroyable, n'est-ce pas? C'est pas de Dieu, ça. Et il dit au verset 42, « Jetez le sort, Jonathan fut pris. » Et Saül dit, « Tu ne meurs certainement, Jonathan. » Et là, il va se passer, la main de Dieu est là. On a souvent dit que la foi honore Dieu. Et Dieu honore la foi. Dieu honore la foi de Jonathan. Il n'a rien dit dans tout ce temps-là, Jonathan, on le voit. Il a seulement dit que son père troublait le pays. Mais c'est le peuple qui prend la défense de Jonathan. Celui qui a opéré cette grande délivrance. Mourra-t-il? Non. Il a opéré avec Dieu aujourd'hui. Et le peuple délivra Jonathan. Il ne mourut pas. Dieu a la haute main sur tout. Il permet que le peuple qui avait été aimé par Jonathan, qui avait été... Jonathan avait usé de bonté, d'amour envers le peuple d'Israël, ce que n'avait pas fait Saül, n'est-ce pas? Eh bien, là, c'est le peuple lui-même qui va délivrer Jonathan de la main de Saül. Que le Seigneur nous aide à être dans la main de Dieu, comme Jonathan l'a été. Parce que la foi regarde toujours à Dieu. Nous soyons gardés d'imposer des lois, des règles, des ordonnances humaines qui ne sont pas de Dieu et qui viennent troubler aussi le peuple de Dieu. Que nous ne soyons pas de ceux qui troublent le peuple de Dieu, mais qui ceux qui aiment les âmes, qui aiment l'assemblée.
dans ces types de l'Ancien Testament, nous apprenons par ressemblance ceux qui sont les types du Seigneur Jésus, Jonathan, mais souvent nous apprenons aussi par contraste. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu un jour quelqu'un qui n'a pas été délivré par la foule. On a crié « Hôte, hôte, crucifie-le !» Et il était là à cause de la malédiction de la loi. Il prenait sur lui la malédiction et les désobéissances, spécialement, bien sûr, de toute l'humanité. Mais on le change des foudres, je crois qu'on a changé ce verset, mais des foudres de la loi s'éteignit la menace quand ton fils prit sur lui tous nos égarements. Jonathan était bien sous la condamnation de la loi. Alors ça, c'est une ressemblance. Et le contraste, il est où? Si on a crié « Hôte, hôte, crucifie-le », là, en contraste, nous avons la foule qui délivre Jonathan. On a 3 J dans la parole, et même 4, de gens qui étaient voués à la mort et qui ont été délivrés. Joseph, chapitre 37 de la Genèse, sur le point d'être tué par ses frères. Contraste, était dans la fosse, il n'y avait pas d'eau. C'est le premier J. L'autre J, c'est Jonathan ici. Il devait mourir et le peuple intercède pour lui. Un troisième J, c'est Jérémie. Jérémie, sauvé par un étranger qui s'appelle Ebed-Melech, chapitre 38 de Jérémie par là. Il dit, mais il va mourir, il faut le tirer. Alors on le tire, vous savez bien comment. Et puis un autre homme qui était voué à la mort et que la grâce a sauvé, c'est le quatrième J, c'est Jonas. Jonas précipité au fond de la mer. Il doit tout à la grâce d'un Dieu qui va le chercher. Ça nous montre qu'il n'y a pas d'endroit trop profond pour la grâce de Dieu. Des gens dont on dit « Oh, ceux-là, maintenant, au point où ils en sont », non, il n'y a personne qui soit trop loin pour la grâce de Dieu. Quelqu'un englouti par un monstre marin, qui dit « Voilà, là, c'est vraiment terminé ». Non, ce n'est pas terminé pour la grâce de Dieu. Dieu va le sortir de là. Donc, c'est 4 J, mais là, nous avons un J particulier. Le roi même est d'accord pour tuer Jonathan, et la grâce de Dieu est en contraste avec ce qu'a connu le Seigneur. Il est délivré par la foule elle-même.
Saül a un mauvais penchant que bien souvent nous avons malheureusement aussi. Et depuis Adam, on a ce penchant-là. Quand il est face à ses responsabilités, ce n'est pas moi. Et alors, il réagit au verset 33, on le rapporta à Saül en disant « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et il dit « Vous avez agi infidèlement. » C'est votre faute. C'est pas. Il ne se remet pas en cause. Il ne dit pas « Ah, ça c'est parce que j'ai dit tout à l'heure telle et telle chose. » Non, pas du tout. Et alors, pour nous aussi, quand il y a quelque chose qui pourrait nous remettre en cause ou que tape les fondements de ce qu'on connaît, les vérités, d'abord, est-ce moi est-ce que j'ai fait quelque chose qui pourrait amener ou conduire à ce qu'on est en train de vivre maintenant? Ça pourrait être un péché caché que personne ne connaît, mais un jour il est dévoilé. Qu'est-ce que je dois apprendre de ce qui est dévoilé là, même si ce n'est peut-être pas ma famille, si ce n'est peut-être pas le rassemblement auquel j'appartiens, mais on est un corps. Et si un membre souffre, tout le corps souffre, depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc, quand il y a un souci dans nos rassemblements, il y en a. Et il ne faut pas dire qu'on a pas mal un peu partout aujourd'hui dans le corps du Seigneur. On en a mal partout. Et justement, ces choses-là devraient nous faire dire, premièrement, comment je peux être un instrument dans la main du Seigneur pour peut-être amener un baume. Si j'ai mal aux côtes et je suis une main, peut-être il y a quelque chose à frictionner. Ça va peut-être faire mal. Mais peut-être le Seigneur va me dire, non, c'est pas le moment. Ou attends un peu. Mais il faudra que tu fasses telle ou telle chose. Et quelqu'un a prononcé un mot tout à l'heure, dépendance. Dépendance du Seigneur pour parler, dépendance du Seigneur pour agir, et parfois dépendance du Seigneur pour se taire. Ça, il en faut aussi. Et c'est la partie la plus dure quand on voit un Saül et qu'on se, malheureusement, on s'identifie avec lui.